Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Et avec aujourd'hui dans notre émission, ce Big Four bousculé en Première Ligue. Tottenham déboule sur la fin du championnat pour s'assurer une place en Ligue des Champions, alors que Liverpool et Chelsea vont encore devoir batailler pour la quatrième place. Avantage aux Reds, même s'ils ont un autre rendez-vous très important en fin de mois à Kiev. Marseille au pied du mur, tous les matchs sont désormais des finales pour l'OM et cela commencera avant la finale de la Ligue Europa par un déplacement à Guingamp où les Marseillais joueront leur avenir en Ligue des Champions. Il leur faut finir deuxième ou troisième de Ligue 1. La Juventus de Turin, vainqueur de la Coupe d'Italie, la quatrième consécutive, la treizième de son palmarès. Sa large victoire a hier humilié les Milanais et leur gardien Gianluigi Donnarumma. Est-il vraiment ce jeune joueur prometteur? N'est-il pas surcoté? Enfin, à un mois du vote de la FIFA, la candidature du Maroc pour 2026 menace-t-elle celle des Amériques, celle des États-Unis, du Canada et du Mexique? Nous en parlerons avec nos invités du jour qui sont évidemment déjà là, déjà en place. Hervé Penaud, bonjour.
Bonjour à vous tous, quel plaisir d'être en votre compagnie.
Notre ami de l'équipe, il y a aussi Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Ah non, c'est pas lui, c'est
non, moi. C'est demain.
C'est bien moi, d'accord, je me suis trompé.
C'est demain.
Bonjour Annie.
Et puis ça soit en face en général. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Hugo, bonjour.
Salut Annie, bonjour à tous.
Hugo Moissonnier, tous les jours dans Radio Foot, ces temps-ci. Radio Foot, c'est parti.
Wow, this friend of mine is not doing so well. He's like a mentor to me. He nurtured me. He never judged me. This is such a fight I will pull through. It's fairy time. You will win. You always do.
You will win, bien sûr qu'il va encore gagner. Et dans le Fergie Time, comme dit Eric Cantona sur le site d'Eurosport, et il le dit évidemment à sa manière, l'ancien joueur de Manchester United, encourageant donc son ancien coach à vaincre le mal qu'il a terrassé le week-end dernier. D'ailleurs, les nouvelles communiquées par Manchester United ces dernières heures sont plutôt bonnes et encourageantes, Bruno.
Oui, on les a suivies scrupuleusement. Ce que j'aime bien, c'est que les tabloïds n'en font pas des tonnes. Ils respectent la vie privée, la santé de Ferguson. Mmh. La bonne nouvelle, c'est qu'au départ, donc déjà très vite après l'opération, il s'était assis dans son lit et il pouvait parler. Là, les dernières nouvelles, c'est qu'il a plaisanté quand il a vu son fils Darren, qui est le coach de Doncaster, un club de Ligue 1, pour lui demander des nouvelles. Et il lui a dit que lui, en gros, il se préparait à aller voir Liverpool, la finale Ligue des Champions à Kiev.
Liverpool est peut-être aussi son ancien protégé.
Oui,
Cristiano Ronaldo qui joue en face.
Oui, et puis voilà, s'il plaisante, c'est quand même bon signe. Après, voilà, il faut toujours prendre des pincettes avec tout ce qui se passe. Ça va être long, là, le rétablissement va être très long. Mais voilà, c'est plutôt positif en tout cas.
Il est sorti des soins intensifs, a dit l'hôpital. Donc, des bonnes nouvelles pour ce qui est de Sir Alex Ferguson. Une nouvelle, en tout cas, qui avait peut-être attristé, voire affaibli ses joueurs, hein, puisque l'équipe des Red Devils a été battue au cours du week-end pour cette 37e journée, en ouverture d'ailleurs. Elle a été battue par Brighton, à Brighton.
Qui s'est sauvé face à Manchester United.
Voilà, incroyable mais vrai. Manu, bon, assure de toute façon sa deuxième place dans ce championnat d'Angleterre et disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. De même, Tottenham, en battant hier soir Newcastle, les Spurs ont gagné leur place, eux, en Ligue des Champions pour l'an prochain. C'est assuré au nombre de points. Il y aura une bagarre entre Chelsea et Liverpool, on va y venir. Mais pour l'instant, écoutons Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin de ces Spurs, parce que pour lui, eh bien évidemment, c'est une récompense logique de l'effort de ces hommes.
C'était un match difficile, mais c'est le cas pour toutes les équipes. On jouait avec la pression de gagner, c'était un match qu'il fallait remporter. Je pense que c'était une bonne expérience pour beaucoup de joueurs. Peut-être que nous avons pris des décisions dans la précipitation et c'est ce qui nous a poussé à commettre des erreurs. Mais je tiens à dire que je suis heureux et très fier de mes joueurs. Je suis tellement fier de mes joueurs. Pour moi, Moussa Sissoko était l'un des meilleurs et je veux le remercier pour son professionnalisme tout au long de la saison.
Une victoire sur le score de 1-0 grâce au buteur de cette équipe Hurricane, même s'il remercie aussi Moussa Sissoko. C'était un match très important effectivement pour cette équipe de Tottenham.
Très important et très compliqué, comme l'a indiqué le score et comme l'a montré un peu les dernières semaines de Tottenham, qui finissent un petit peu sur les rotules, un petit peu comme chaque saison d'ailleurs. Le travail que demande Pochettino prend énormément d'énergie et souvent sur la fin ils ont beaucoup de mal, et ils avaient été inclinés le week-end dernier à West Bromwich 1-0 dans les toutes dernières secondes. Là, ils ont souffert face à Newcastle. Mais quelque part, ça récompense leur saison, même si elle était compliquée. Il faut rappeler qu'ils ont changé de stade, qu'ils ont démoli White Hart Lane pour construire un nouveau stade. En attendant, ils jouaient à Wembley. Donc, c'était forcément compliqué quand on change de stade comme ça pour une saison. Et au final, ils s'en sortent pas trop mal. Pour l'instant, ils sont troisième. Ils peuvent finir troisième ou quatrième, ce qui est un bon résultat pour ce club de Tottenham qui progresse saison après saison et après leur bonne campagne de Ligue des Champions.
Justement, Hugo, ils sont toujours sur le podium ces derniers temps.
Alors Pochettino, parce que c'est un peu avec lui qu'a vraiment débuté ce cycle vertueux de bons résultats pour les Spurs. Il arrive en 2014. Mm-hmm. En 2016, ces Spurs terminent sur le podium, troisième, deuxième en 2017, donc la saison passée Tottenham, et pour l'instant en tout cas troisième cette saison en Ligue des Champions.
Après avoir bataillé deux fois dans la course au titre en 2016 et 2017 quand même, c'est pour ça que même s'ils finissent exactement un peu mal sur la fin, ils sont toujours
dans
la course
au titre. Oui, c'est pas une équipe qui est sur le podium, mais décroché loin derrière le champion. Vous parliez de la Ligue des Champions, de l'Europe, éliminé au premier tour de la Ligue des Champions l'an passé, en 2016, ils étaient notamment dans la poule de Monaco. Ils avaient été reversés en Ligue Europa. A priori, c'était pas tout à fait leur priorité, puisqu'ils ont été éliminés par la Gantoise, les Belges, qu'on salue, qu'on respecte, qui sont pas exactement des foudres de guerre en 16e de finale. Mais là aussi, il y a eu effectivement une progression avec cette qualification, cette sortie de la phase de poule cette saison, et c'est pas rien puisqu'ils ont terminé devant le champion d'Europe en titre, le Real Madrid, et devant le Borussia Dortmund, et ils ont été éliminés par la Juventus Turin en faisant quand même plus ou moins jeu égal.
En étant meilleur 80% du temps face à la Juve.
C'est match nul de partout. Ouais. À Turin, et puis une défaite assez surprenante puisque la Juve renverse la situation très rapidement, de manière très clinique, comme elle aime bien le faire,
à l'expérience,
et s'impose donc 2-1 à Wembley au retour.
Et alors justement, une question autour de ce Tottenham, pourquoi finalement cette équipe, c'est pas celle qui termine numéro 1? Qu'est-ce qui leur manque pour être les premiers de la première
ligue?
Même
si tout le monde reconnaît que Pochettino fait un travail fantastique avec Tottenham, et notamment en termes de jeu, parce qu'il a vraiment amené une idée, une philosophie de jeu, c'est une des équipes les plus agréables à avoir joué. Il manque, il y a ce constat que Pochettino n'a toujours remporté aucun titre. Et zéro titre en 4 ans, ça commence à faire beaucoup, ou peu. Et forcément, il y a des petites questions qui se posent, mais voilà, on attend maintenant que la saison prochaine, ils franchissent un cap. Et pour franchir ce cap, il faut qu'ils augmentent, entre guillemets, leur masse salariale, qu'ils se mettent à la hauteur de Manchester City, de Chelsea, de United. Parce que pour le moment, le plus gros salaire du club, il est autour de 110, 115, 120 000 livres par semaine. Ce qui est deux fois moins que City ou United, par exemple, voire Chelsea. Donc ça fait vraiment un énorme écart entre les grosses équipes.
C'est qui le plus gros salaire?
Et pour recruter des grands joueurs, de mémoire, c'est Harry Kane et Loris. Mais pour signer des grands joueurs, des joueurs qui vont les aider à franchir un cap, il faut augmenter cette masse salariale.
Mais tout est là, parce qu'en fait, on juge pas les équipes. Logiquement, on devrait pas juger les équipes de la même manière. Évidemment que Tottenham, c'est pas Manchester City. Tottenham, c'est pas Manchester United, c'est même pas Chelsea. Hein, et pourtant, là, ils sont devant. C'est pas Chelsea. C'est à la rigueur, j'irais un peu comme Liverpool. Et encore, peut-être un petit peu moins que Liverpool,
moins,
mais sur des choix.
Ouais.
Donc, ça a été sur des choix cruciaux qui ont été différents. Mais il n'y a pas d'énormes transferts à Tottenham. Non. Eux, finalement, ils récupèrent de l'argent par des joueurs qui vendent. On a l'histoire Gareth Bale.
Mm-hmm.
Harry Kane, quand il va partir, je pense que ça va leur donner aussi un petit paquet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement pour Tottenham, c'est qu'ils n'ont pas non plus les fonds et les moyens. Alors, gagner contre les armadas que vous avez en face. Alors, c'est vrai que sur une coupe, peut-être, on peut tenter un truc, s'ils ont failli faire en Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas réussi en Coupe d'Angleterre, notamment. Mais il n'empêche que, moi, je vois pas, pour Pochettino, moi, je trouve qu'aujourd'hui, lui reprocher, par exemple, une absence de palmarès, c'est un petit peu dur, parce qu'il est vraiment en dessous, très en dessous des moyens des autres équipes. Et finalement,
on lui reproche de pas avoir remporté remporter.
Je comprends, non, mais je, voilà, je comprends. C'est ça. Je comprends ce qu'on peut dire. Mais pour moi, le duel finalement de Tottenham, c'est Arsenal, en gros, aujourd'hui. Et Tottenham, force est de constater qu'aujourd'hui, Tottenham est passé devant Arsenal, ce qui n'était pas le cas de pendant des années et des années. Puis qu'on connaît la rivalité, évidemment, entre les deux clubs.
Oui, d'ailleurs, en préparant l'émission, on se disait ça. C'est-à-dire que Tottenham était devenu le Arsenal de ce Big Four et faisait ce qu'avait fait ces derniers temps.
C'est un compliment.
Autre chose, c'est un groupe extrêmement jeune, donc forcément qu'il y a une marge de progression énorme. Le truc, maintenant, c'est d'avoir de conserver leurs meilleurs joueurs comme Harry Kane, comme Dele Alli. Ça va être ça le plus compliqué.
Ouais, de pas les laisser partir. Eriksen. Franck, vous voyez comment, vous, cette équipe de Tottenham qui arrive si près du but, mais qui justement manque encore d'argent ou de talent. De
déjà de rappeler que c'est un club, comme dans toute l'histoire des grands clubs en Angleterre, c'est un club qui subit des cycles. Là, il est plutôt dans un bon cycle, un cycle positif. Je suis d'accord avec l'analyse d'Hervé dans le sens.
C'est bien.
Pour une fois, tu vois, je suis d'accord avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on leur reproche de pas avoir gagné une coupe? Mais quand tu vois l'adversité, mais attends, c'est l'enfer. En plus, il y a souvent des équipes on va dire, du ventre mou qui essayent justement de se mêler à la lutte pour les coupes parce que c'est leur seule possibilité d'aller chercher une place européenne, éventuellement. Moi, je trouve que c'est une équipe, je suis d'accord aussi, là, pour le coup, avec toi, Bruno, dans le sens que, voilà,
c'est rare, ça, par contre.
Ouais, parce qu'on se voit pas souvent, donc, voilà, c'est bien de le souligner aujourd'hui. Vous êtes bien blagué. Non, Tottenham, c'est vrai que quand on les regarde, c'est très plaisant. C'est très plaisant. Après, il y a une telle adversité, pour moi, ça me paraît très compliqué, dans un futur proche, de les voir passer devant les autres. Bon, au moins, ils ont gagné quelque chose, peut-être. Enfin, on le saura la prochaine journée. C'est le titre de meilleure équipe de Londres, du championnat de Londres. Déjà, c'est pas rien.
C'est pas rien. Parce que c'est un championnat dans le championnat.
Il faut bien se rendre compte que quand on parle des grands joueurs de Tottenham, alors on parle de Kane, mais ils ont créé leurs joueurs d'une certaine manière. Dele Alli, pareil.
T'as le capitaine de l'équipe de France, quand même.
Dele Alli, pareil. Loris. Enfin, c'est pas nous ce qu'on estime une star en France.
Ouais, mais enfin, c'est quand même.
Ah, je dis pas que c'est un mauvais joueur, attention. Sanchez qui prennent, qui est un très très bon défenseur central, mais qui a besoin encore de faire ses armes et qui a besoin encore.
Mais c'est ça, quand on regarde l'âge des plus grands joueurs.
Donc il y a de la marge.
Eriksen, c'est 25 ans, Harry Kane, c'est 24 ans, Dele Alli,
mais vont-ils rester la saison prochaine, la saison d'après?
Tout dépend de la masse.
C'est toujours la même question, et ça, on revient toujours au terme de salaire et de titre. Si à un moment donné, Harry Kane voit qu'il peut pas gagner le titre ou de trophée avec Tottenham, il va vouloir aller ailleurs, forcément.
Et Pochettino, il va rester?
Pochettino ne partira uniquement le jour où le Real Madrid lui fera une proposition, parce que c'est son rêve d'aller entraîner le Real Madrid, et il a dit en aparté que c'était le seul club aujourd'hui qui le ferait quitter Tottenham. Il veut absolument découvrir le nouveau stade de Tottenham la saison prochaine.
C'est bien.
Après, on ne sait pas ce qui peut se passer cet été. Hein.
Mmh. Oui, on sait que la période estivale est toujours pleine de surprises. En tout cas, Liverpool se retrouve maintenant quatrième, Chelsea cinquième. Il y a un écart de 2 points entre les équipes. Les Reds sont-ils en danger? Sont-ils menacés de ne pas disputer la Ligue des Champions, eux qui sont finaliste justement cette année de cette compétition? Alors, peut-être un avantage, Bruno, il reste une seule journée en Angleterre, c'est que Liverpool recevra Brighton à Anfield, et on sait quand même qu'ils savent mettre l'ambiance, les supporters
Brighton,
des Reds.
Brighton, disons, de deux semaines de folie. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus la nuit en éveil.
Oui, voilà,
le jour,
ils sont sauvés maintenant. Donc,
faut se méfier quand même.
On en
connaît d'autres qui avaient su renverser la vapeur. Je me souviens de Guignon quand il gagne la Coupe de la Ligue en France et qui empêche à l'époque Guingamp de monter. Ils étaient arrivés, c'était les stars, en France, Ils arrivent sur le terrain de Guingamp. Guingamp doit absolument gagner. Et ils les battent et ils font un match de fou. Alors qu'on savait que pendant 8 jours, ils avaient fait la fête tous les jours.
Mais les joueurs disent souvent que la semaine qui suit les titres et les célébrations, ils sont portés par quelque chose, ils sont en pleine confiance, ils n'ont aucune pression et ils jouent comme des rois, quoi. Mais là, en l'occurrence, le faux pas de Chelsea à domicile.
Voilà, alors Chelsea, en plus, ira à Newcastle. C'est ça le problème. Donc, est-ce que juste.
Même Everton, Franck, mes favoris.
C'est dire.
Liverpool est-il menacé sur sa place en Ligue des Champions ou pas? Il leur faut terminer quatrième, après c'est des places de Ligue Europa.
Il leur faut un point. Ouais,
ils peuvent se satisfaire d'un match nul.
C'est la déception, c'est quand même Chelsea. Hein. Parce que franchement, c'est un sacré contre-coup. Là. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent hier. Ils font qu'un match nul chez eux. Ouais. Et là, c'est un gros coup dur. Parce que Chelsea, une deuxième année en 3 ans sans Ligue des Champions, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, il faut se souvenir quand même que quand Conte est arrivé, d'ailleurs, c'était sa chance, c'est de pas avoir de Coupe d'Europe, de pouvoir travailler avec ses joueurs durant la semaine, et puis d'avoir beaucoup moins de matchs que ses concurrents directs. Mais il n'empêche que là, rater une nouvelle fois la Ligue des Champions, surtout qu'ils ont montré en Ligue des Champions, il faut se souvenir, même de leur parcours, ce contre Barcelone, ça se joue vraiment à rien du tout, hein. Ils avaient été plutôt plaisants, plutôt intéressants. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qui s'est passé sur ce match-là, parce qu'on avait l'impression que la victoire contre Liverpool devait être justement le match qui devait leur permettre après d'asseoir
une place dans les quatre. Surtout qu'ils jouaient contre une équipe impromue qui se battait pour sa survie, et au final, Huddersfield s'est sauvé face à Chelsea. Et, mais c'est, alors c'est décevant et en même temps c'est pas surprenant parce que ces dernières saisons, ça a souvent été ça. Ils font un peu le yo-yo, Chelsea. En souvenir, en 2012, ils finissent 5e ou 6e du championnat et gagnent des champions. Souvent, la saison qui suit un titre, ils sont en grande difficulté. Mm-hmm. Mourinho s'était fait virer la saison qui avait suivi.
Juste après,
c'est un club qui est particulier parce qu'il y a une énorme pression de Roman Abramovich sur le manager qui veut absolument des titres et du style. Et que souvent, c'est des cycles d'entraîneurs de 2-3 ans maximum. Et donc là, on est reparti vers un autre cycle après le départ de Conte qui sera cet été, je pense.
Hugo?
Bon, a priori, personne ne s'inquiète pour Liverpool. Je veux juste simplement signaler que les Reds, ils restent depuis leur demi-finale aller victorieuse, ce succès 5-2 face à Rome. Ils restent sur 3 matchs sans victoire. Un match nul à domicile face à Stoke, 0-0. Ouais. La défaite à Rome en demi-finale retour. Et puis une défaite à Stamford Bridge. Et que Mohamed Salah, il ne marque plus depuis 3 matchs.
C'est aussi un nul contre West Brom, qui était aussi la lanterne rouge.
Donc simplement pour dire, ça c'était avant Rome.
Mais c'est la série depuis qu'ils ont battu City, en fait, oui, vraiment, c'est très
donc
compliqué.
Ils vont pas très bien non plus les Reds.
Non,
alors.
Mais il leur faut un point. Ils ont une meilleure différence de but que Chelsea, à moins d'un cataclysme à Anfield.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà la finale dans les esprits et qu'ils s'économisent entre guillemets pour ça?
Forcément. Enfin, c'est déjà Klopp dans sa gestion le montre un peu, et certains joueurs, et notamment Mohamed Salah, qui est moins fringant depuis le match aller contre Rome. On ne sait pas si c'est de la gestion ou si c'est juste qu'il fatigue un peu et qu'il a besoin de répit.
Ouais, il va retrouver un second souffle, une nouvelle vigueur. Vous savez que le Ramadan c'est dans quelques jours, c'est dans moins d'une semaine. C'est quelqu'un qui est très pieux, Mohamed Salah, et il va se préparer justement pour bien gérer cette partie-là. On sait que les joueurs musulmans durant cette partie-là, ils mettent un point d'honneur justement à faire taire certaines critiques. Vous savez qu'il y a des fois dans les clubs des gens qui leur reprochent pourquoi vous faites le carême, etc., etc. Et lui, je suis persuadé que c'est la période justement où on va le retrouver. Il va montrer que voilà, ça ne l'atteint pas, que c'est quelqu'un qui respecte ce carême, mais qui en même temps sur le terrain il va tout donner. Et je suis sûr qu'il sera au rendez-vous. Voilà. Mm-hmm. Bah, c'est vrai qu'il a un vrai creux. Hein.
Ouais,
bon, il est peut-être surveillé différemment maintenant.
C'est
aussi,
un vrai creux, et en même temps c'est un peu logique parce qu'il était tellement sur un nuage depuis des mois et des mois.
Il a besoin de rebondir parce qu'il y a cette finale, mais aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde et que l'Égypte. C'est lui aussi qui porte beaucoup son équipe.
Sans lui, les pharaons seront quand même bien.
Et ces histoires
bien,
de ballon d'or, ces rumeurs de ballon d'or.
Parlez-nous-en.
Déferler sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a pu le partout.
On est au moins.
C'est pas moi qui en parlais. J'entends
et je lis des trucs absolument incroyables. Je vous rappelle que je suis juste un des collaborateurs de France Football depuis quelques petites années, depuis 28 ans. Et quand j'entends et je lis ça. Non, arrête. Quand je lis ça, je trouve ça extraordinaire de lui promettre déjà le ballon d'or. Mais les gens ne savent même pas comment ça se passe. Le choix même de la liste, etc., etc. C'est pas maintenant. Mmh. On en est loin.
Alors on va parler d'un autre club qui lui aussi est pris entre deux feux.
Allez-y mon vieux. Quoi? Allez l'OM, allez l'OM, allez. Allez l'OM, allez l'OM.
C'est vraiment pour vous que je le fais. Allez l'OM.
On ne s'en lasse pas de ce Jacques Villeray, exactement, qui n'est évidemment pas supporter de l'OM et qu'on oblige à crier ce
pour Daniel Prévost,
ce score, ce slogan dans un téléphone. Alors justement, l'Olympique de Marseille, il faut cravacher sur les deux tableaux. Ils sont moins en roue libre, ils ont moins le choix. Une finale donc arrachée de haute lutte à Salzbourg, ça sera déjà dans une dizaine de jours et il faut y penser au moins. Et puis même si Rudy Garcia l'a bien dit hier, j'interdis à mes joueurs de prononcer ce mot et de faire une allusion à cela. Voilà. Il faut penser à être européen l'année prochaine, mais surtout à être européen en Ligue des Champions. Alors, la bataille à 3 continue. Il y a l'OL Lyon donc qui est deuxième, Monaco troisième et l'OM quatrième, mais les 3 se tiennent en 2 points. Alors que Lyon ira à Strasbourg et que Monaco recevra Saint-Etienne et ils joueront à la même heure, Marseille a obtenu de Guingamp et de la Ligue professionnelle de football de pouvoir jouer dès vendredi soir, c'est-à-dire dès demain soir, en Bretagne. Et Valère Germain a pleinement conscience de l'enjeu.
Aujourd'hui, on peut tout avoir, on peut rien avoir au final. Donc la saison va se jouer sur 10 jours. On sait qu'on a encore 10 jours à être vraiment professionnel, à penser qu'au foot, toutes les minutes, toutes les secondes vont être importantes pour se préparer, pour y récupérer et pour bien penser à ce qu'on doit faire individuellement et collectivement, parce que on fait une très belle saison, mais pourrait être encore plus belle si on arrive à avoir quelque chose à la fin. Pour l'instant, elle est belle, mais ça serait une grosse déception que de ne rien avoir au final, parce qu'on a quand même un groupe de qualité, un groupe de grands joueurs, et si on n'a rien au bout, c'est comme si, voilà, on devait offrir un cadeau à un enfant, dans les moments, on lui reprend, donc, non, on a envie d'avoir quelque chose, au minimum, la qualif en Ligue des Champions, ou la victoire Europa League, les deux seraient bien.
Un groupe de grands joueurs et un groupe de joueurs de qualité, Hervé, pour réussir à décrocher cette deux ou troisième place, est-ce que ça dépend encore de l'OM finalement?
Ah oui, ça dépend matchs. D'abord de l'OM, s'ils veulent être deuxième. Après, les autres, si les autres gagnent, ils gagneront pas. Mais eux, ils ont une obligation, c'est de gagner déjà leurs deux derniers matchs, logiquement. Hein, parce qu'on voit mal les deux concurrents perdre leurs deux derniers matchs. Donc, il va falloir gagner. Maintenant, dans quelles conditions ils vont aborder cet obstacle guingampé? Compliqué. Parce que, quand vous avez une finale de Ligue Europa dans la foulée 5-6 jours plus tard, il est évident que les joueurs, vous pouvez pas leur dire, version, Garcia. Non, mais je veux même pas entendre parler, vous y pensez pas. Ils pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à, il n'y a pas un joueur qui pense à Guingamp. Et c'est qui l'entraîneur de Guingamp? Il sait même plus. En revanche, il connaît tout.
On peut leur dire.
L'Atlético, hein. Donc, c'est pas un souci. Ça va être déjà un souci. Et arriver à psychologiquement se mettre sur ce match-là, sachant qu'on veut pas se blesser, parce que ça
qui te manque du monde pour Guingamp,
et qui manque trois joueurs en défense centrale, ouais, notamment. Ouais. Alors là, c'est
elle a l'habitude de regarder ça depuis le début de saison.
Oui, mais là ça devient un sacré mikado.
C'est plus la même chose.
Là, c'est compliqué, hein, parce que vous avez Rami en moins, Luis Gustavo en moins, et le troisième qui est en moins, et Rolando en moins. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, vous recommencez tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai risque. Et puis, cerise sur le gâteau, nos amis de Guingamp ont quand même battu Monaco. Mmh. Ils ont fait match nul au Parc des Princes. On me dit le PSG était pas ça. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que à l'époque, ils n'ont sur que des victoires, à domicile. Il y a eu match nul. Donc, il y a quand même un vrai danger pour l'équipe de Marseille de se retrouver avec une fin de saison où finalement vous allez tout perdre. Vous finissez quatrième et vous êtes battu en finale. Espérons évidemment que non. Mais il n'empêche qu'ils se retrouvent dans une situation très délicate.
Et c'est vrai, Guingamp en ce moment avec notamment Clément Grenier, ils arrivent à être étonnants.
Grenier qui est sorti de la cave quand il Lyon.
Exactement.
Non, mais c'est pas mal, non? Comme Nabil n'est pas là, c'est pour ça.
Un petit clin d'œil à Nabil, alors, si vous entend. Hugo, vous voulez nous rappeler, c'est le calendrier pour les trois?
Oui, puisque on parlait des derniers matchs de ces trois concurrents pour les places en Ligue des Champions. Donc, Marseille, déplacement à Guingamp demain, réception d'Amiens. Ça fera un match crève-cœur pour le président de la République française. Déplacement à Strasbourg pour Lyon, réception de Nice, réception de Saint-Étienne pour Monaco, avant un déplacement à Troyes, Strasbourg, Nice, Saint-Étienne, Troyes. Il me semble que ce sont des équipes qui ont encore des choses à jouer. Je parle des adversaires donc de Lyon et Monaco. Non. Or, ce n'est pas le cas des adversaires de Marseille.
Et Lyon est sur 8 victoires consécutives. C'est-à-dire que s'ils arrivent à faire 10 victoires, c'est énormissime. Le Paris Saint-Germain a buté sur 12, c'est-à-dire le record. Ils n'ont pas pu le faire cette année. Donc, ça veut dire que c'est pas si évident. C'est qu'à un moment, ça s'arrête. La dernière fois, ils ont joué à domicile contre une petite équipe et ils ont gagné 3-0 contre 3. Mais ils ont vraiment été en difficulté dans le jeu. Donc, il y a un moment, des fois, ça c'est un peu l'histoire de Chelsea hier. Personne pense que Chelsea va perdre des points contre
Huddersfield. Surtout après avoir gagné contre Liverpool.
Et surtout après avoir éclaté. Ouais. Évidemment, c'est la voie royale. Et puis à un moment, ça claque. Il y a un petit
rouage.
Et puis les adversaires de Lyon Monaco, je répète, ont des choses à jouer. C'est bien pas sûr, le cas des adversaires de Marseille. Donc c'est peut-être un avantage pour l'OM.
Franck, comment voyez-vous ces finales, comme disait aussi Valère Germain? Il dit maintenant, on a trois finales devant nous.
Il n'y a pas de mathématiques dans le football. Hein. Voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est sur le terrain.
Hein. Oui.
Après, on les a vus
le week-end dernier, hein, où ils ont été, entre guillemets, héroïques, face à Nice, où ils arrivent à arracher une victoire, on se demande comment.
Je les remercie pas parce que j'ai perdu l'autosportif grâce à tout ça. j'ai misé tout à côté, comme d'habitude. Bon, pas grand-chose, hein, 1 euro, mais tout de même. Non, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est plutôt bien qu'on arrive, en fait, dans cette partie de saison, où on sait déjà, on connaît les vainqueurs de nos coupes nationales, on connaît le champion depuis très très longtemps.
Pratiquement partout, effectivement.
Mais d'avoir encore ce petit suspense là, je trouve que c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que ces équipes là ont plutôt bien travaillé. On promettait pas forcément cet avenir là à cet OM, tout le monde rigolait avec le projet
Champions Project.
Champions Project.
Ça
a beaucoup fait rire.
Et finalement
ils y sont, ils font de toute façon quoi qu'il advienne, je pense que ça sera une saison très importante dans l'histoire de ce club. Voilà, parce que on les attendait pas et puis dans le football qu'ils ont pratiqué, faut reconnaître par la demi-finale retour. Bon.
Puis alors, on parlait de Tottenham qui a pas des stars, mais non plus, hein.
Ça ressemble aux OM précédents, justement, aux OM qui avaient été en finale au
début. Un peu bricolé.
Voilà, un petit peu bricolé avec un technicien qui a aussi qui a de la poigne. Et puis vous avez quand même quelques joueurs d'exception. Faut pas dire qu'il y a, ça manque de talent.
Ah
mais
oui, il y a du talent.
Il y en a, il y en a, il y en a.
Bien entendu. Voilà, voilà. Et notamment quand un Dimitri Payet est en forme.
C'est pour ça que j'y crois à cette deuxième place. J'y crois.
Deuxième place.
J'allais vous demander votre loto sportif de Radio Foot.
Ouais, le seul problème, c'est que les gens, il faut qu'ils nous écoutent, il a perdu toutes ses économies dans les paris.
Arrête. C'est vrai que j'ai pas grand chose sur le compte, mais enfin arrête quand même.
Donc ne mettez pas l'OM deuxième.
Non, je les vois quand même, je les vois accrocher comme ils le, je pense qu'ils le méritent, une place en Ligue des Champions. Et puis après, pour le reste, pour la finale européenne, alors là, c'est la bouteille à la mer.
Et vous, Bruno, pour ce qui est du championnat de cette Ligue 1, l'OM, voyez aussi en Ligue des Champions?
J'ai peur que ce soit difficile quand même. Monaco, j'y crois pas du tout, parce que, enfin, j'y crois pas. Je pense qu'ils finiront deuxième parce que voilà, les adversaires font que ils peuvent finir en roue libre. Ça peut jouer avec Lyon peut-être. Lyon qui reçoit Nice, c'est ça?
Ouais, à la dernière journée.
Nice, une équipe qui joue libérée, qui a une belle équipe, qui a des individualités.
Ils ont des trucs à se faire pardonner aussi. Hein.
Oui, voilà,
ouais,
c'est donc, plutôt ça.
Ça va partir en plus à Nice.
C'est
hein,
des matchs de, non, mais c'est des matchs de fin de saison. Il peut y avoir beaucoup de
mais
buts.
Même le Strasbourg Lyon, attention.
Oui, Strasbourg,
Strasbourg juste sa survie. Lyon est démuni en défense puisque là ils ont pris une cascade de suspendus. Donc il y aura match. Hein,
mais il faut que Marseille gagne à Guingamp. Est-ce que Marseille est capable de gagner à Guingamp?
Oui. Offensivement, ils sont
compliqués.
Hein.
Moi, je pense que ça va se régler là ce soir, enfin demain, mais
ça peut se régler demain. Ce qui est marrant, c'est que ça peut se régler ce week-end,
avant que les autres jouent.
Ça peut être effectivement.
Bah, je joue la cote à Annie, vous avez entendu.
D'autant plus que Marseille peut aider tout le monde, parce que effectivement, Marseille, s'ils prennent trop de retard, ils sont éliminés de la course à la 2-3e place. Et s'ils sont battus en finale de Ligue des Champions par Atlético Madrid, c'est-à-dire que les trois premiers en France vont en Ligue des Champions. Hein, donc ça, puisque l'Atlético Madrid est déjà en Ligue des Champions via son championnat, donc ça veut dire que les trois Français iraient en Ligue des Champions.
Pourquoi ne pas croire à la dynamique de cet OM justement.
Absolument, voilà. Absolument, hein, absolument.
Ah, même pour oui, alors c'est sûr, hein, l'OM peut tout perdre, l'OM peut aussi
peut tout gagner,
ou peut gagner la moitié des choses.
Après, c'est surtout, vous savez, c'est surtout dans la cafetière que ça se passe.
Ils peuvent surtout tout gagner parce que tout perdre, ils ont encore rien. Hein, faut la finale de l'Europa League, on leur promettait pas, et même une place dans le top 3, c'était compliqué. Là, ils sont à leur place, avec les joueurs qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont.
Mais au mental, tu les vois pas aller chercher quand même, justement, paraît impossible.
Le problème, c'est qu'ils ont déjà été chercher au mental le dernier match et qu'il y a la finale
mais
derrière.
Mais le mental s'arrêtera peut-être seulement à la dernière journée du championnat.
Plus chose, quoi,
ils ont quand même un effectif. Ils avaient un effectif quand même. Moi, je trouve qu'on a sous-coté un petit peu. Par rapport à Lyon, je trouve que c'est un effectif qui est plus fort que Lyon. Alors, je dis pas sur le potentiel, parce qu'il y a beaucoup de très bons jeunes joueurs à Lyon. Mais c'est des joueurs qui débutent leur carrière. Il y a 3-4 joueurs titulaires à Lyon qui n'avaient jamais joué en Ligue 1. Et qui naît de Ligue 2, donc, et puis d'autres qui sont venus de l'extérieur, qui n'avaient aussi jamais joué en Ligue 1. Donc, c'était une équipe qui était un petit peu fragile. Alors que les Marseillais, vous avez des joueurs quand même solides. Quand vous avez
c'est l'expérience qui a fait la différence.
Ils sont costauds, flexibles.
Thauvin qui a pris une autre dimension aussi.
Mais Thauvin, c'est l'équivalent des jeunes joueurs marseillais. Lyonnais aujourd'hui, les Ndombele, les Aouar. Aouar qui est un joueur qui est phénoménal, il a un talent. Mais Aouar, on en parlera dans 3 ans. Quand Thauvin a débuté, quand il était la première année à Marseille, et même quand il y a eu ce fameux imbroglio, Marseille, etc. Les gens disaient, finalement, Thauvin, il est pas si fort. Non, Thauvin a besoin de temps. Thauvin a besoin
de maturité, je pense, surtout.
Exactement. Et c'est pareil pour les Lyonnais. Je pense que si Lyon avait connu le même parcours que Marseille, il aurait explosé en championnat. Ce qu'a pas fait Marseille, je trouve que c'est fort, quand même. Parce qu'être capable d'avoir gagné, de le nul à Angers, plus la victoire, c'était.
C'est là où les anciens ont leur importance.
Ouais, bien sûr.
De cadrer tout ça, de calmer tout le monde, dans le discours, dans le.
Mais je me souviens que dans Radio Foot, on leur avait un peu promis cela. C'est-à-dire, ils gagnent ici, ils perdront là et que finalement ils allaient peut-être miser plus sur une chose qu'une autre, une compétition qu'une autre.
On n'est jamais sûr de rien parce que comme
ils ont été pris dans une dynamique exactement.
Mais la pression elle n'est pas sur l'OM. Hein. La pression n'est pas sur l'OM aujourd'hui. Je suis désolé. Le champion sortant s'est cassé la figure pour pas dire pire. Lyon bon an mal an c'est vrai que tu le soulignais ils sont quand même sur une belle série c'est eux qui doivent se maintenir. Mais derrière comment Marseille c'est quoi la pression? T'as réussi un truc extraordinaire, t'es en finale européenne.
Il leur faut la Ligue des Champions. Alors la chance qu'ils peuvent avoir c'est que même s'ils étaient battus à Guingamp et qu'ils étaient éjectés de cette lutte là, ils ont encore une chance.
Sur un match. Et ça joue sur un match.
Parce que ça qui est bien, t'as une deuxième
chance. Ouais. Voilà. Si jamais il y avait échec, mais enfin, il y aura peut-être pas échec à Guingamp, attention. Oui. Et s'il regagne encore à Guingamp, là, je me dirais quand même, c'est costaud, Marseille.
Mais ça mettrait la pression.
Ça mettrait la
pression sur l'Atlético.
Plutôt sur Lyon et Monaco. Déjà, commençons par Lyon et Monaco, puis on reparlera de l'Atlético après.
C'est pas la même taille, quand même.
Vous avez raison. On en reparlera. Allez, direction l'Italie. Là, eh bien, on a un vainqueur qui gagne et qui gagne.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Juventus in zona d'attacco, Benatia la mette dentro per il vantaggio della Juventus che sblocca la finale. Juventus 1, Milan 0.
Punta Rodriguez, poi Douglas Costa e la palla finisce dentro. Non è riuscito a respingere Donnarumma. 2-0 Juventus. Giud, tanto ancora una conclusione e la rete di Benatia che raddoppia sotto misura su un'altra palla non trattenuta. Benatia tra i due, intanto corner e autorete per il 4-0, il poker della Juventus.
Quatre buts et une fête qui commence sur la pelouse pour se terminer évidemment dans les vestiaires pour les joueurs de la Juventus qui a remporté donc un nouveau titre et nous on a gagné un petit cours d'italien. C'était pas désagréable d'entendre ces buts commentés par nos confrères. Hein, oui. Une Coupe d'Italie donc la quatrième consécutive et la treizième dans l'armoire des Bianconeri. Hein, je vous regarde Hugo, c'est bien cela, c'est ce qu'on a compté ce matin en tout cas.
C'est ce qu'on a compté, oui, hein. ça fait beaucoup.
Une victoire qui s'est dessinée en deuxième mi-temps parce que ces quatre buts, eh bien, ils sont arrivés dans les 20 minutes entre la 56e et la 76e très précisément. Un doublé, on l'a entendu, du défenseur marocain Mehdi Benatia.
Du capitaine des Lions.
Ouais, des capitaines. Des lions de l'Atlas. Classe, oui, il y a beaucoup de lions en Afrique.
Ousso de l'Atlas. Les lions de l'Atlas.
Mehdi Benatia, donc, et évidemment, eh bien, leur entraîneur, ce Massimiliano Allegri, qui est si allègre, hein, et qui surtout les pousse à chaque fois, et inlassablement vers les titres, eh bien, Massimiliano Allegri était fort heureux de cette soirée.
La soirée a été grandiose. Les joueurs ont été très bons face à une bonne équipe de Milan qui a réussi à fermer les espaces en première période. Ils se sont créés 3 ou 4 occasions de but. On verra dimanche pour le Scudetto, on espère pouvoir l'emporter aussi. Mais les joueurs doivent célébrer cette victoire car elle apporte beaucoup au club. Ils la méritent, c'est un groupe avec des joueurs et des personnes extraordinaires. Je souhaite dédier ce trophée à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, sur le terrain ou dans les bureaux. Ils font un travail crucial pour que le club réussisse.
Alors voilà, cette Juventus dans l'attente de son nouveau titre, ça serait le 7e, hein, si je ne me trompe pas, de champion d'Italie. Ce qu'on remarque dans ses paroles... Oui, non,
plus.
Bien entendu, je sais, ils en sont à plus de 30, on s'en
c'est
souvient,
incroyable.
C'est 36 où ils avoisinent ce chiffre-là en tout cas. Une chose Bruno, par rapport aux institutions, aux grands clubs comme on dit en Angleterre, là on entend Massimiliano Allegri qui appelle tout le monde à la fête, qui nomme surtout tout le monde, les gens de l'ombre comme il dit. Est-ce que c'est ça aussi la marque d'un grand club au soir d'une énième victoire, on va dire?
Ben oui, parce que Manchester City par exemple, quand ils ont célébré leur titre le week-end dernier, la tradition veut que tous les membres du club, les petites mains on va dire du club, s'alignent pour faire une grande aide d'honneur jusqu'à ce que les joueurs arrivent, leur tapent dans les mains. Et on a vu Guardiola et tout son staff arriver, et Guardiola a embrassé quasiment chaque membre du staff et des mecs de l'intendance, etc. Donc il y a une mise en valeur des salariés entre guillemets du club, de ceux qui travaillent dans le club, sur la pelouse avec le public et la célébration. Ils font participer tous ces gens-là. Et il y a une grande valeur. Arsène Wenger, par exemple, quand il a fait son speech d'adieu à l'Emirates, il a vraiment assisté pour souligner tout le travail de ces gens-là qui travaillent aussi avec lui depuis 22 ans. Donc il y a vraiment la reconnaissance du travail de tous ces gens-là, entre guillemets, les petites mains qui aident au quotidien au club, parmi les grands clubs comme Arsenal ou les Juve.
Franck, une vieille dame, toujours fraîche.
Ah oui, moi je m'en lasse pas, hein. Même si j'avais raconté des bêtises, tu pourrais le dire, hein. J'avais dit que le Napoli allait passer devant la Juve, tu vois.
Ouais.
Bon, c'est pas grave.
On avait tenté, alors t'expliquer. Non, ça sera difficile.
Ça sera difficile, mais j'y croyais après la victoire. Bref, la Juventus, moi j'ai toujours été fan de cette équipe, surtout à cause de, enfin, grâce à Michel Platini et puis à cette équipe des années 80, quoi. Et toutes ces décennies, quoi, je les suivais. Il y a quand même eu des petits creux. Il y a eu une relégation. Ils sont revenus. Comme le disait Hugo, après, ils trustent les titres, etc. Et on s'y retrouve toujours parce que, comme un Man United, comme un Liverpool, c'est des maisons honorables, vénérables, quoi. Voilà, il y a une histoire. Ça sent le passé, mais ça sent aussi le futur. Il y a des projets. Et moi, c'est ce que j'aime dans ces clubs-là. Mais ils sont vivants, pour moi, c'est sans âge finalement. Oui, quoi, oui. Voilà.
Mais aussi parce qu'ils profitent de l'effondrement de des grands clubs italiens depuis 10-15 ans.
Il reste plus grand monde. Hein. C'est vrai que le Milan hier, ça a été catastrophique.
Bon, Napoli,
c'est différent. Ça fait quelques saisons qu'ils sont revenus au premier plan. Et c'est vrai que le Torino, c'est plus le Torino qu'on a connu encore dans les années 80, etc. Malgré tout, eux, voilà, ils se maintiennent, ils montent des choses. Il n'y a pas si longtemps, ils n'ont pas été loin de sortir le Real, on s'en souvient, en Ligue des Champions. Moi, j'aime ces clubs-là. Voilà, ces clubs vénérables, ces clubs historiques
avec lesquels il faut toujours compter.
Il faut compter. Puis hier, ils ont fait un gros match. Alors, on pourra peut-être parler tout à l'heure de Donnarumma. Dans le but de la Juve, il y avait un vieux grognard qui a fait un sacré match.
Oui. Hervé, vous vouliez dire.
Bon, oui, je rien à ajouter, sauf une petite chose.
Allez-y.
J'étais content pour Mehdi Benatia parce qu'il avait tellement pris.
Benatia ou Benatia alors.
Benatia. Ah, je sais pas. Benatia.
En italien, ça semble être Benatia.
Bon, bah Benatia. Franchement, ce qu'il avait vécu après le but de Koulibaly, lui-même l'a dit. Il a dit pendant 10 jours, ça a été un enfer. Il avait du mal à dormir parce qu'on lui avait reproché en gros d'être celui qui avait été battu sur la tête de Koulibaly, qui avait donné la victoire à Naples dernière minute contre la Juventus. Et lui, il avait très mal vécu ça. En plus, c'est quand même.
Aussi dans le coup du match contre le Real.
Oui, mais il pensait plus parce que là, pour lui, il n'y avait pas faute, donc c'était un peu plus compliqué. Mais là, quand ce qu'il a expliqué, c'est que
on lui est tombé dessus.
C'est-à-dire qu'on lui a dit en gros, en une semaine, tu fais tout perdre. À la Juve, alors qu'il sort d'une saison incroyable, il était monstrueux. Et là, le fait qu'il mette deux buts, un de la tête sur corner et un autre aussi sur corner, mais en venant chipper la balle, parce que le gardien, et on va en reparler, mm-hmm.
il est fort sur les corners. Souviens-toi du match d'Abidjan,
Avec le Maroc, il a mis un but, et c'est vraiment un type sur lequel le Maroc va compter, parce que c'est vraiment le pilier de cette équipe nationale marocaine. Donc j'étais content pour lui, ça m'a fait plaisir, parce qu'il ne faut pas enterrer les gens comme ça. Hein,
voilà. Faut le dire, et puis Hervé Renard compte vraiment beaucoup sur lui. Il a réussi justement à lui redonner
cette envie de venir au Maroc.
La vieille dame, surtout, elle est toujours là. Au rendez-vous. Alors, dans cette déroute, évidemment, on a beaucoup vu.
Il y a la vieille dame et le jeune homme.
Le jeune gardien qui n'a vraiment pas beaucoup aidé ses camarades. Il a fait de grossières erreurs et il a surtout facilité la tâche des adversaires. Alors, on va d'abord entendre, c'est Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais. Il a tenu à défendre son jeune gardien en sortant du match.
Nous ne sommes pas là pour décider si nous avons perdu à cause des erreurs de Donnarumma. Donnarumma a commis quelques erreurs sur cette finale, c'est évident. Mais si nous avons perdu, c'est parce que toute l'équipe a commis des erreurs. J'en ai commis, mon staff aussi, ainsi que tous ceux qui travaillent pour Milan.
Alors avant de parler du cas Donnarumma, rappelez-nous son parcours, parce qu'il est jeune, il a une vingtaine d'années, mais il a déjà fait pas mal parler de lui, Hugo.
Vous savez pourquoi il porte le 99 dans le dos? Parce qu'il a même pas 20 ans, tout simplement. C'est parce qu'il est né en 1999. Ce qui peut relativiser un petit peu les critiques ou notre volonté d'être trop dur.
Ça y est, de la complaisance.
Le problème, c'est que pour un jeune gardien qui a fait ses débuts à 16 ans et 8 mois, c'est un record de précocité pour un gardien en Serie A. Il a déjà de l'expérience, plus de 120 matchs dans le championnat d'Italie. Le problème, c'est que cette jolie histoire, elle a déjà été entachée d'une polémique. Le feuilleton autour de sa prolongation de contrat l'été dernier, orchestré avec à la manœuvre le sulfureux agent très connu, très médiatique, Mino Raiola, qui est le grand marionnettiste derrière pas mal d'opérations du football business ces dernières années. Hein, Zlatan, Paul Pogba. Il a pris un joli chèque au passage avec Paul Pogba. Donc ça a grandement entaché cette jolie histoire, ce conte de fées, puisque Donnarumma, ça reste l'héritage désigné de Gigi Buffon, hein, le vétéran de la Juve. Il a 5 sélections, il compte déjà 5 sélections en équipe d'Italie. Donnarumma, la première, c'était en septembre 2016 face à la France.
À la fin du match, justement, ce qu'on a vu aussi, Gattuso a conforté son joueur, mais Franck, ce qu'on a vu aussi, c'est cette petite accolade entre Gigi Buffon et Gigi Donnarumma.
Encore heureux, c'est une...
Il est allé l'encourager.
C'est une confrérie. Donc, ils se connaissent bien, ils se connaissent de l'équipe nationale. Quand il a commencé à s'intéresser au football, Gigi Buffon était déjà là. Il fait forcément partie des références. Il va pas dire que c'est son modèle. Ça, ils font pas, ils vont pas, ils vont dire c'est son idole, mais il y a du respect entre les deux, forcément. Gigi, il est passé par là. Faut pas croire que Gigi Buffon était déjà un génie dans le but à 19 ans. C'était un gardien avec énormément de qualité, avec, comme on dit, du potentiel, mais en vérité, ça se peaufine.
Surtout que Donnarumma, je connais son idole, c'est pas du tout Gigi Buffon.
C'est moi.
C'est Franck Simon.
merci.
Franck, c'est aussi notre époque, puisque Buffon, il a fait ses gammes, il a récité. Oui,
mais on peut pas accélérer.
Il a donné l'impression qu'il pouvait quitter son club formateur cet été.
On peut pas accélérer l'apprentissage d'un gardien. Sûr, ça, moi, je trouve ça scandaleux de mettre des gamins de 19 ans, 18 ans dans les buts de grands clubs. On l'a vu avec De Gea quand il est arrivé à Manchester United. Ils l'ont mis aussitôt dans le but. Il avait 20 ans. Il faisait bêtise sur bêtise. Et à l'entraînement, il paraît que c'était une catastrophe. Il voulait pas s'entraîner. Il avait une hygiène de vie qui était catastrophique. Et à un moment donné, il fallait qu'il apprenne tout ça. Et ça a mis deux ans à Manchester United avant de devenir un gardien plus posé, plus sérieux. Et encore, même maintenant, ceux qui analysent les matchs et les entraîneurs de gardiens disent que De Gea fait beaucoup d'erreurs, commande pas sa défense, il est pas présent dans sa surface. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps et en faisant des erreurs.
Absolument.
Et on a tendance à l'oublier.
Le problème, c'est qu'il gagne 6 millions annuels.
Ça y est,
non, mais je veux pas du tout lui reprocher
pas ça. Non, mais c'est penser que le Paris Saint-Germain pense à lui.
Encore une fois, je reviens sur ce feuilleton autour de sa prolongation de contrat. Donc il a soufflé le chaud et le froid. Il a dit
feuilleton.
Je pars, je reste.
Non, mais il y avait déjà eu le feuilleton la fois où il n'avait pas voulu re-signer, justement. Alors maintenant,
lui, il est pas pour grand chose. Sur Raiola, dis-toi, tu joues, et puis moi, je m'occupe de tout le reste. Des déclarations dans la presse, des moments où je mettrai la pression, etc. Simplement, assume tout ce que je dis.
Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec Pogba. Pogba est revenu à Manchester United, ça fait même pas 2 ans qu'il est revenu, et Raiola le propose déjà à plein d'autres clubs. Il l'a proposé au Real, il l'a proposé au PSG. Alors que le joueur, on ne sait pas ce qu'il veut. Le joueur, il s'amuse, il machin.
C'est toujours pas. Voilà. Et il veut. Ce qu'il vaut, peut-être.
Et apparemment, il veut rester à Manchester United.
Ce qu'il vaut.
Donc, il y a un double jeu aussi de l'agent.
Franck.
Ce pourquoi on l'évoque aujourd'hui, Donnarumma, c'est parce que il a commis 2 fautes de main. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle on en parle cet après-midi.
2 sur 4.
Il y a la frappe de Douglas Costa où effectivement, il la laisse passer. C'est une frappe qui est, je crois, à l'entrée de surface ou à peine dans la surface. Il y a la frappe, elle passe entre ses mains. Donc là, il y a clairement une grosse erreur. Sur le corner, le premier but de Benatia est pareil. Et un ballon qui peut boxer, voire capter assez facilement la balle est molle de la tête, il apprend pas, ça fait but. En fait, en quelques minutes, il a détruit ce qu'il essaye de construire ou de reconstruire, parce que il est pas fou, lui aussi. Il sait qu'il a été critiqué pour tout ce qui s'est passé cette saison. Et honnêtement, c'est pas la meilleure saison de ses premières années de carrière. Maintenant, il faut lui donner le temps. Je suis d'accord avec Bruno. Voilà, il faut lui donner le temps et il sera forcément, il va gagner en maturité, il va gagner en tout ça. Aujourd'hui, il est perdu. Mais je pense que justement, il a la chance d'avoir quelqu'un comme Gigi Buffon qui peut aussi le conseiller. Et puis, il est dans un grand club et il va refaire surface. Il va se remettre à travailler.
Mais c'est justement, c'est ça peut-être aussi, Hervé, vous évoquiez ces rumeurs qui le donneraient arrivant au Paris Saint-Germain. C'est peut-être trop tôt de le mettre dans ses rouages.
C'est une erreur majeure à la fois pour lui et pour le Paris Saint-Germain.
Mais c'est pas un top gardien.
En plus, aujourd'hui, ça l'est pas.
Ce
sera peut-être un top gardien dans 5-6 ans. Ça, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, c'est un jeune gardien qui fait un apprentissage de Réa. C'est vraiment le parfait modèle. Ouais, c'est le modèle.
PSG, faut être honnête, le PSG peut pas s'offrir Donnarumma aujourd'hui. Ils vont pas mettre 100 millions d'euros sur un gardien.
Et ça n'a aucun sens. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, Donnarumma, il est meilleur qu'Areola? Mais pas du tout. Mais pourquoi il serait meilleur qu'Areola? Il a prouvé quoi par rapport à Areola? Et qui est un jeune gardien. Gardez Areola. Si vous pouvez faire au Black, tentez au Black. Même si, à mon avis, c'est pas le poste.
Ah, puis l'expérience d'un Italien dans le but, Sirigu.
Il y a Trapp aussi. Oui, exactement.
Donc, Donnarumma, faut qu'il apprenne son travail. En Italie, très bien, qu'il refasse encore 1 an ou 2 au Milan AC, puis on verra plus tard.
Hugo ?
Oui, juste pour signaler que au sein de l'effectif du Milan AC, Donnarumma, il peut profiter de l'apport d'un grand frère au sens littéral du terme, puisque son grand frère Antonio Donnarumma est le 3e gardien des Rossoneri. Il porte le numéro 90. Pourquoi ? Parce qu'il est né en 1990.
C'est une belle année.
Ils sont malins dans la famille.
On a été bavards. Allez vite, on court vers l'Afrique. Parce que je voulais vous entendre, messieurs, sur cette candidature du Maroc 2026, donc pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes à J-30, non pas de la désignation du pays, ça se fera le 13 juin en Russie, mais le 10 juin, il y aura le fameux comité de la FIFA qui examine les conditions techniques des candidatures. Alors, le Maroc, pendant très longtemps, a émis l'hypothèse qu'on allait l'éliminer sur des critères qui peuvent devenir subjectifs et techniques. Les dirigeants, notamment Hicham El Amrani, et donc le comité Maroc 2026 qui se balade en Europe et en Europe du Nord actuellement pour essayer de glaner des votes. Évidemment, les Américains, ils le font avec le Mexique et le Canada du côté de l'Asie. Est-ce qu'à cette heure, selon vous, le candidat reste un candidat sérieux?
Ah, bien sûr. Ah, tout à fait. Et de plus en plus. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a peur. Et c'est pour ça aussi que Donald Trump a commencé à mettre la pression sur les pays qui allaient voter.
À menacer.
Et alors là, c'est là où je ne comprends pas la FIFA, parce que je pense que la FIFA s'est totalement aplatie. Ce qui s'est passé là, c'est gravissime. C'est-à-dire, vous avez un président d'un pays qui dit, on vous prévient, si vous ne votez pas pour United 2026, c'est-à-dire la candidature tripartite, il y aura des sanctions contre ces pays-là. Ce qui fait que les Africains du Sud, qui avaient dit dès le départ, on va voter pour le Maroc, ont dit, finalement, on votera recule pour les États-Unis. Oh non, ils ont dit, on va décider pour qu'ils votera. Et la ministre des Affaires étrangères a dit, de toute façon, vu ce qui s'est passé et vu ce qu'a dit Trump, on va voter pour les États-Unis. Là où c'est absolument, mais scandaleux, mais je pense que ça, c'est pas d'autre terme, vu qu'on nous explique, c'est une nouvelle FIFA. C'est que la FIFA, dès qu'il y a ingérence du politique dans le sportif, elle vient, elle sanctionne. Mm-hmm. Combien de fédérations africaines ont été touchées?
Comité de normalisation un peu partout aujourd'hui.
Rappelez-vous, en France, ce qui s'est passé quand il y a eu des déclarations de politique voulant sanctionner l'équipe de France, qui a eu des problèmes, il dit attention.
Si vous le faites, attention.
Mais alors lui, le président des États-Unis, qui dit, je vous préviens, si vous votez pas, il y aura des sanctions. Ouais. Les pays qu'on a aidés, on les aidera plus. Mais ça, c'est pas une ingérence politique. FIFA ne dit rien. Infantino, il est nul, archi nul.
Alors, est-ce que ça donne plus de poids justement à ceux qui ont envie de voter pour le Maroc, Franck?
Je sais pas si ça leur donne plus de poids, mais ça donnait de la conviction, de l'envie à l'équipe qui défend cette candidature. On les connaît, hein. Vous avez cité Hicham El Amrani, mais il y a tous ceux qui sont derrière, toutes les petites mains. Et on était il y a pas si longtemps au Maroc, donc on s'en souvient. J'y étais au mois de mars, au moment où ils en parlaient. Mm-hmm. Ça reste très compliqué pour eux d'aller glaner des voix, puisque il y a notamment toute la partie Amérique du Sud qui leur échappe aujourd'hui. Mais je crois que c'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire. Vous le disiez, ils sont actuellement en Europe et tout ce qui se passe, toutes ces déclarations, elles ne profitent pas du tout à la candidature United, tout.
Et espérons-le, parce que là, la manière dont ce combat est en train de se mener,
c'est biaisé. Très,
parce que moi, j'ai pas le souci. Bien sûr, vous connaissez mon point de vue. Je préférerais que la Coupe du Monde ait lieu, évidemment. Ouais, d'accord.
On est d'accord.
Mais à la rigueur, faut que c'est simplement un vote le 13 juin, normal. Après, il y a lobbying contre lobbying, et c'est tout à fait normal que les Américains fassent leur lobbying.
Mais les Marocains l'ont dit. Ils savent que c'est lobby contre lobby.
Ça fait partie du jeu. Mais en revanche, de cette manière-là, là, on est rentré sur un terrain qui est plus un terrain sportif. Très dangereux.
De chantage.
Trump a commencé il y a longtemps.
C'est pas d'aujourd'hui.
Vous parlez de l'Amérique du Sud, mais il y a quelques joueurs qui osent comme ça donner leur voix, donner un souffle, comme ils disent, à la candidature. Exactement. Dans les dernières heures, c'était Lionel Messi. Il y a eu Samuel Eto'o, Andrés Iniesta. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, peut-être, les Européens regardent le Maroc avec envie parce que c'est près des frontières.
Qui seront pro-marocains. La France, notamment. Hein. Je vois pas l'Espagne ne pas être pro-marocaine, l'Italie.
La Belgique Et apparemment,
Portugal,
les pays du Nord.
Portugal aussi.
Suède, Norvège, Islande.
Non, parce que pour eux, c'est tout bénef de venir au Maroc. Maintenant,
Elle est belle, cette candidature.
Moi, je vous le dis depuis le début, ce qu'il faut. Ah, bien sûr, c'est une super candidature.
Belle, super
ce qu'il faut, c'est qu'il y ait
vote.
C'est tout. Moi, déjà, au moins qu'il y ait un vote.
Faut faire 104
voix. Et qu'il y ait les deux candidats au moment.
Et qu'il y ait les candidats. Quand je dis qu'il y ait vote, qu'il y ait les deux candidats. Ce serait scandaleux que le Maroc soit éliminé avant le vote.
Oui, mais apparemment, la FIFA se méfie de ça, mais alors il y aura 208 votants, théoriquement.
Oui.
Donc,
mais vaut mieux le dire, vaut mieux prévenir que le dire.
Exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International une fois de plus. Merci aussi à David Finzel, à Pierre Guérin, qui m'ont aidé tous les deux à préparer l'émission. Guillaume Ploquin était à la réalisation et on vous donne rendez-vous demain pour le Café des Sports avec, cette fois, ça sera le vrai Rémi Ngono qui dira bonjour. Ça sera pas Franck Simon. Merci et à demain.